La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
Félix, alors, qu'est-ce qui se passe là dans les maisons de... C'est comment on l'appelle d'ailleurs? J'étais avec Stéphanie, ma collègue tantôt, Stéphanie Villeneuve. On se demandait, c'est-tu Puff Daddy, Puff Diddy, Sean Combs? C'est quoi son nom à lui?
Ben, en tout cas, moi, le P. Diddy.
C'est aussi.
Ouais, P. Diddy. Moi, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'y vais avec ça. Alors, comme on disait à Guerre des Clans, je vais y aller avec la famille, puis je vais y aller avec P. Diddy.
Félix,
c'est une grosse histoire quand même aux États-Unis.
Félix, là, c'est pas seulement la police qui a débarqué dans ses résidences, c'est le home security. Là, c'est les gens qui sont là pour protéger les frontières et la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'ils font dans ces maisons?
Ben c'est ça, exactement. Donc, c'est une enquête fédérale qui vise le rappeur américain de son vrai nom, Sean Combs, alias P. Diddy. Donc, qui ont été perquisitionnés hier par des agents fédéraux. C'est centré sur une poursuite pour viol et agression sexuelle. Si tu as vu les images qui étaient diffusées en boucle sur les réseaux américains hier, les policiers sont entrés dans certaines résidences avec des camions blindés à la clôture, de très luxueuses propriétés. Puis effectivement, il y avait le bureau d'enquête du département de la sécurité intérieure de New York qui est impliqué, qui a annoncé avoir mené des opérations là, dans ses antennes de Los Angeles, dans ses antennes de Miami aussi. Et cette enquête fédérale sur le trafic sexuel, l'affaire, c'est qu'on n'en sait pas énormément sur qu'est-ce qui a bien pu se passer. Sauf que, je veux dire, le nom du soupçon est dans l'accusation qu'on risque de porter contre lui, là, du trafic sexuel. Ce que le réseau américain CBS dévoilait hier, c'est qu'il y aurait une femme qui aurait éventé aux autorités fédérales que Sean Combs aurait participé activement à un tel trafic. Alors, ça devient beaucoup plus sérieux.
Mais trafic, on parle-tu d'une affaire un peu comme Jeffrey Epstein, là? C'est-à-dire un réseau de... C'est des jeunes, je crois, aussi, qui étaient impliqués là-dedans?
Ben, dans le cas d'Epstein, bien sûr. Dans le cas de Sean Combs, à la mi-novembre dernier, il y a la chanteuse de R&B, Casey, qui avait déposé une plainte au civil pour viol, violence physique, contre Sean Combs, accord à l'amiable après ça, il y a deux autres femmes qui ont porté plainte contre lui, une à visage découvert. On l'accusait de l'avoir... En fait, elle l'accusait de l'avoir drogué puis agressé sexuellement en 1992. Sauf que, justement, CBS rapporte que ces femmes-là, dans le continuum là, des violences qu'elles auraient subies, elles auraient peut-être aussi subi ce qui pourrait ressembler à de la traite des femmes, donc à une incitation de la prostitution ou bon quelque chose comme ça. Alors tu vois, c'est très très sérieux. Sean Combs avait fondé le label Bad Boy Records en 93, et puis c'était une énorme vedette. C'est lui qui produisait Notorious B.I.G., mort en 97, Mary J. Blige. Alors, c'est énorme dans le monde du hip-hop aux États-Unis. Et il est devenu milliardaire grâce à sa maison de production. Oui. Puis ses investissements dans plusieurs sphères d'activité commerciale, la mode, des boissons alcoolisées. Alors, il a démenti les accusations pour l'instant, sauf que l'avocat, entre autres, qui représente les deux des femmes dont je t'ai parlé, qui s'appelle Douglas Wigder, lui, il dit que c'est un homme qui a une conduite dépravée et qu'il entend bien là, l'en tenir responsable devant le tribunal. Une des grosses, grosses histoires dans le monde criminel et artistique aux États-Unis depuis le début de l'année.
Ben écoute, ils font tellement d'argent, ils ont tellement de pouvoir, puis tout ça, ils perdent complètement la carte, ces gens-là. Donc, Puff Daddy et ses résidences perquisitionnées. Un autre qui s'en va en prison, c'est le cofondateur de Sutton.
Et il doit pas trouver ça très, très drôle, hein, Christophe Follat, parce que là, il espérait être remis en liberté. Juste à dire, Christophe Follat, donc, c'est le cofondateur de Sutton Québec et l'agence immobilière. On a été très surpris avant Noël de voir que il avait été accusé d'avoir commandé une série d'incendies criminels chez ses compétiteurs des Laurentides depuis 2017. Alors, Follat, donc, revenait, justement, puis il espérait que la suite des procédures se déroule pendant qu'il soit en liberté, mais c'est pas ça qui s'est passé du tout. Il a 70 ans, il s'est présenté devant le juge parce qu'il avait été libéré là, pour la suite des procédures, il avait versé une des plus fortes cautions jamais exigées en pareilles circonstances au Québec. Il avait versé 400 000 $ de caution.
Wow.
Et puis, ses partenaires d'affaires avaient aussi versé, en tout cas, bref, il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de livrer les motifs exacts là, de sa requête pour rester en liberté, mais il n'a pas réussi. Alors, il aurait subi un malaise pendant que la juge Hélène DiSalvo terminait la lecture de la décision. L'ambulance a été appelée, sinon ça a pu reprendre, mais là, en prison. Pour M. Follat en attendant la suite du procès.
Et c'est ça, il mettait le feu dans les bureaux d'autres agences immobilières. C'est assez particulier parce que Sutton, ça fonctionnait bien dans le Nord, ça allait bien ses affaires. Y avait-tu vraiment besoin de sacrer le feu au bureau de ses compétiteurs? C'est vraiment particulier, cette histoire.
La preuve n'a pas été testée devant le tribunal, Richard, mais si ça s'avère, c'est une bien drôle de décision. À moins d'avis contraire, là, mais ce qu'on nous dit, c'est que M. Follat était multimillionnaire. Alors,
oui.
Tu sais, ou je veux dire, ça te sert à quoi, là? En tout cas, moi, je veux dire.
Avais-tu besoin de faire ça? Ben voyons,
ça. Ça ne passera pas par l'esprit de hey, puis il y a juste. Il y a le sens moral dans tout ça, puis, tu sais, mais de ne pas s'écarter de la loi, mais, tu sais, quand tu mets le feu à quelque part, il peut y avoir des morts aussi, juste te dire. C'est pas anodin de sacrer le feu un commerce.
Écoute, il y a des suites là, dans l'histoire du bar de danseuse de Terrebonne.
Oui, il y a effectivement un gars qu'on appelle le guerrier qui a été arrêté là suite à cette bataille du bar de Gascon à Terrebonne. Donc, ça s'est terminé par le meurtre de M. Furtado lié à l'arrêt de Jean-Philippe Célestin. Alors, il y a eu une arrestation dans ce dossier-là. Puis, il y a quelque chose qui se passe à Montréal aussi en dernière heure. Il faut absolument que je t'en parle. Il y a 400 policiers de la GRC qui sont présentement dans le nord-est de la métropole, sont en train de viser là, une présumée vaste opération de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, puis de jeu illégal. Ça touche le clan familial Lopez-Oliverio. Ça, ce sont de présumés gros narcotrafiquants. Il y a 400 policiers, je te l'ai dit. Ils ont même fait venir la GRC des équipes là, tactiques d'intervention de 4 provinces différentes. Donc, le fameux le SWAT. Là. Il y en a du Nouveau-Brunswick. Il y en a un qui est venu de Vancouver. Il y en a un qui est venu de Montréal. Bref, ce qu'on voulait dans ça, c'est frapper simultanément des endroits à risque. C'est pour ça que le SWAT est là, pour protéger la preuve, pour empêcher sa destruction. Donc, il y a vraiment beaucoup de policiers à Montréal présentement. Bon, on verra qu'est-ce que ça vaut, là, tout ça. Mais sait que le clan Oliverio, c'est énorme à Montréal. T'sais.
Écoute, trafic de drogue, ça me fait penser à ce qui se passe à Marseille. Je te fais une parenthèse. Il y a eu une opération Place Nette à Marseille, c'est-à-dire qu'on a arrêté un paquet de dealers de drogue. On sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de trafic de drogue. Les policiers sont arrivés, ils ont fait le ménage, opération de place nette, ils ont fait plein d'arrestations. Et dans Le Figaro, j'ai lu ce matin que quelques heures seulement après l'opération, il y avait plein d'autres dealers qui sont arrivés dans le centre-ville de Marseille puis qui ont pris la place de ceux qui étaient arrêtés. Et là, il y a des gens qui commencent à se demander, ben peut-être qu'au lieu de s'en prendre à l'offre, il faudrait peut-être plus penser à la demande. Pourquoi il y a des gens qui prennent de la drogue et traiter ça sous l'angle de santé publique? Parce que là, on est en train de se rendre compte, même en France, que de prendre des dealers puis les mettre en prison, ça ne règle pas le problème sur le long terme.
C'est l'éternel débat de la lutte au trafic de drogue. Est-ce un problème de santé publique? Puis est-ce qu'on doit le voir et le prendre, le voir par la lorgnette, justement, de la réduction des méfaits, de la réduction de la consommation, puis du traitement des dépendances ou de la répression policière? Je te rappelle qu'on a fait un reportage après être allé au Pérou, là, notamment avec la DEA là, américaine, sur une cinquantaine d'années de lutte antidrogue. Et écoute, c'est quoi donc? J'ai pas le texte devant moi, mais c'est des centaines de milliards de dollars qui ont été dépensés pour la lutte à la répression, alors qu'il y a toujours quelqu'un qui prend la place de celui que t'arrêtes. Alors, tu sais, Richard, l'échec est monumental. Les experts le disent, l'échec de la lutte antidrogue est monumental. Mais, ça, ce sont des experts américains qui se sont prononcés.
Mais voilà, c'est un expert français que je te cite dans le Figaro. En matière de drogue, l'action sur l'offre est inopérante pour deux raisons. La première, c'est que dès qu'un réseau de trafiquants est détruit, un espace s'ouvre sur le marché et un concurrent s'en empare. Les leçons de la prohibition de l'alcool aux États-Unis sont sans appel, toujours plus de consommation, toujours du marché noir, de la corruption, jusque dans la police, la justice et les élus. Bref, à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Et rapidement, selon toi, est-ce qu'il faut retirer le permis des conducteurs qui ne s'attachent pas, qui ne portent pas leur ceinture de sécurité? Il y a encore des gens en 2024 qui ne portent pas leur ceinture.
Ben, tu vois, regarde, hier, on a parlé des gens qui n'avaient pas de détecteur de fumée puis de détecteur d'incendie fonctionnel dans des logements. Quelque chose qui tombe sous le sens pour le commun des mortels. Quelqu'un qui ne s'attache pas en voiture, ça tombe pas sous le sens non plus pour le commun des mortels. Irait-on jusqu'à saisir le permis des usagers de la route qui ne bookent pas la ceinture? Le débat est lancé par le coroner, maître Rudy Dahlman. Il dit, et je cite le texte de Laurent Lavoie dans le Journal de Montréal, « Afin d'éviter de perdre des vies inutilement, le port de la ceinture de sécurité est l'une des meilleures mesures de protection des occupants dans une voiture lors d'un accident de la route. » Il a rendu public son enquête sur la mort de Félix Demers Dubé, un résident Belleuil, qui est mort en janvier 2022. Sa ceinture de sécurité était détachée. Il dit que c'était un accident évitable. Et là, on viserait peut-être à suggérer à la SAAQ d'apporter des modifications au Code de la sécurité routière pour une suspension temporaire du permis pour un effet plus dissuasif. Moi, honnêtement, j'y vois que du bien. Je souligne dans ça aussi, c'est intéressant, hein, qu'on ait des coronaires au Québec et aux États-Unis, parce qu'ils forcent toujours le débat, puis ça en vient sur quelque chose d'intéressant.
Mais Félix, si tu ne mets pas ta ceinture, tu mets en danger seulement toi-même, seulement ta propre personne. C'est-à-dire, si tu as un accident, tu peux passer à travers le pare-brise puis te tuer. Regarde, si tu n'es pas... si ta vie, c'est pas important, puis tu décides de ne pas mettre de ceinture, ben c'est bien tes affaires. Puis c'est toi que tu mets en danger. Est-ce qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes?
Ben, c'est justement, les coronaires sont aussi là pour protéger les gens contre eux-mêmes. Encore une fois, on est en train de traiter ça. Si je comprends bien l'approche du coroner, il traite ça aussi, en tout cas, pas comme un problème de santé publique, mais un genre de théorie de réduction de méfaits. Tu sais, si tu as une suspension de permis temporaire, puis la prochaine fois, tu dis plus jamais, écoute, je vais mettre ma ceinture, puis ça te sauve la vie. Ben, je comprends que c'est ton libre arbitre, sauf qu'il y a quelqu'un qui va t'avoir aidé à penser comme du monde.
J'espère qu'on va faire la même chose pour les gens en bateau. Il y a encore des gens qui montent sur des embarcations l'été sur l'eau et qui n'ont pas de gilet de sécurité, de gilet de flottaison.
Alors, chaud raide aussi.
Oui, chaud raide, oui, complètement chaud d'air sur leur ponton, tout à fait. Merci Félix, à demain, bye.
OK, bye.